Vous écoutez France Culture.
18h20 sur France Culture, l'heure de retrouver Olivia Gesbert.
Merci beaucoup Marine. On se voit pas... Si, on se voit demain. Demain,
sûr.
Encore jeudi.
Oui.
Parfait, pour un nouveau 5 à 7. Merci beaucoup à vous. Du grain à moudre, c'est jusqu'à 19h. Vous pouvez dès maintenant laisser vos commentaires à la page de l'émission sur franceculture.fr. Bonsoir à tous. Dénouement ou rebondissement, le conseil d'administration d'Alstom a préféré hier soir l'option General Electric à la solution Siemens, intéressée par sa branche énergie. Et Alstom de se laisser un mois pour étudier en détail l'offre américaine sans fermer la porte à d'autres propositions. Dans cette partie A3, industrielle, un quatrième acteur estime avoir son mot à dire, l'État, qui demande des gages en matière d'emploi, d'indépendance énergétique et de maintien de l'activité sur le territoire français. Bercy et l'Élysée, que l'américain General Electric inquiéterait. Un rachat pas vraiment aux couleurs du Made in France, ni très européen. Le secteur ciblé est par ailleurs sensible et est jugé même stratégique par certains de l'énergie nucléaire. L'État, a déclaré François Hollande, a forcément son mot à dire. Son mot, peut-être, mais quel levier actionner pour faire pencher la balance dans le sens de l'intérêt national sans être suspecté de ne pas jouer le jeu de la concurrence libre et non faussée? Faut-il continuer à laisser libre cours au libre-échange, privilégier un concurrent européen ou tenter de construire une solution avec nos partenaires voisins en réhabilitant peut-être l'idée d'un protectionnisme européen? L'Europe a-t-elle enfin les moyens d'une politique industrielle? À moins d'un mois des élections, rendez-vous ce soir avec notre club des observateurs européens pour en débattre. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Maryse Dumas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère confédérale de la CGT, membre du Conseil économique, social et environnemental. À vos côtés, Jean-Paul Trintiel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat associé au cabinet White & Case, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Et puis nous attendons encore Jacques Sapir, l'économiste, qui arrivera peut-être d'ici la fin de cette émission. Nous vous tenons au courant. Commençons avec vous, Jean-Paul Trintiel. Peut-être repartir quand même de ce cas Alstom. De quoi est-il révélateur à l'échelle nationale d'abord, puis européenne?
Alors, il est, à mon sens, d'abord révélateur d'insuffisance de la construction européenne en matière de politique de l'énergie. C'est essentiellement de la branche énergie d'Alstom dont il est question. Et on peut comprendre que l'absence de signal politique sur ce que doit être une politique de l'énergie au sein de l'Union européenne a probablement aussi pénalisé les investissements, les perspectives de rentabilité, etc. Quand je dis absence de politique de l'énergie, ce n'est pas une absence totale, mais c'est en même temps une politique de l'énergie qui a tendu à favoriser les énergies nouvelles et renouvelables plutôt au détriment des énergies traditionnelles. Et donc, énergies traditionnelles qui sont plutôt celles qui nécessitent la construction de grands équipements tels que ceux qu'utilise ou que produit Alstom.
Pour Maryse Dumas, on a beaucoup entendu ça récemment dans le discours français, plutôt que de voir ce fleuron industriel français passer sous pavillon américain avec General Electric, en tout cas une des branches d'Alstom, l'État a... affiché en coulisses sa préférence pour l'offre de Siemens en arrière-toile. Est-ce que l'image peut-être idéalisée d'Alstom au cœur d'un grand conglomérat européen continue à séduire, ou la constitution d'un géant du ferroviaire à l'image d'Airbus pour l'aérien?
Alors, un mot d'abord. Le pacte de stabilité a été voté hier à l'Assemblée nationale. Et outre son contenu antisocial, je ne vais pas développer là-dessus puisque ce n'est pas à l'ordre du jour, je voudrais simplement faire remarquer à quel point il est à côté de la plaque. Parce que la réalité, c'est que la réalité de l'actualité, c'est qu'on continue à dépecer l'industrie en France et l'emploi en France. Pacte de stabilité, 50 milliards de cadeaux aux fiscaux, aux entreprises ou pas, ça continue. Donc un plan qui à la fois est néfaste pour les salariés et en même temps à côté de la plaque par rapport au grand sujet. Deuxième caractéristique, c'est, monsieur parlait à l'instant d'absence de politique énergétique en Europe, on peut même dire d'absence de politique industrielle en Europe et aussi en France. d'ailleurs. Parce que moi, ce qui me frappe quand j'écoute les représentants du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas une stratégie industrielle à mettre en face des restructurations de ces grands groupes. On dit fleuron de l'industrie en France, certes, c'est vrai, c'est vrai. Mais quelle politique du gouvernement pour permettre de le développer ? Troisième aspect, quel est le diagnostic réel sur Alstom ? Le diagnostic réel sur Alstom, c'est moins un problème véritablement industriel qu'un problème financier, notamment parce que le groupe Bouygues se retire et met en danger l'avenir de cette industrie, alors même que, je reprenais les chiffres, ces 5 dernières années, 1,3 milliard d'euros ont été distribués en dividendes aux actionnaires. Donc ensuite, ce que dit le gouvernement, plutôt General Electric l'inverse, plutôt Siemens que General Electric, pour la CGT, c'est ni l'un ni l'autre. La question, c'est, il y a un besoin de capitalisation.
C'est ce un serait fleuron quoi, l'État français d'intervenir ?
C'est, absolument, c'est un fleuron industriel. Plus de 50% des commandes, enfin du marché d'Alstom relèvent de commandes publiques. Donc c'est à l'État de prendre, l'État français, de prendre un certain nombre de responsabilités financière dans un premier temps, mais en même temps industrielle en termes de stratégie, à la fois en France et en Europe. Je pense que la suite du débat permettra d'approfondir cette question.
Alors, il semblerait que ce ne soit pas à l'ordre du jour. On va discuter pourquoi ensemble tout à l'heure. Mais Jacques Sapir vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonjour.
Économiste, directeur d'études à l'EHESS, auteur entre autres de « Faut-il sortir de l'euro ?» qui était paru au Seuil en 2012. On évoquait avec nos invités, Maryse Dumas et Jean-Paul Trintiet, jusqu'ici, le cas Alstom à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. De quoi cette affaire Alstom est-elle révélatrice ? Jacques Sapir, pour vous, sur le plan national, Alstom illustre d'abord jusqu'à la caricature, et là je vous cite dans les colonnes du Figaro de lundi, les défauts de privatiser une société qui dépend étroitement de l'État. Expliquez-nous ça.
Oui, absolument. Et qui plus est, vu les activités d'Alstom, on est typiquement dans des secteurs où on est confronté à ce qu'on appelle des faillites de marché. C'est-à-dire, pour le dire en quelques mots, des situations où, de fait, le jeu de la concurrence aboutit à des résultats pervers. Bien sûr, elle va donner des résultats, mais ces résultats ne seront pas les bons. Par ailleurs, il est clair qu'en privatisant ce type de société, qui est adossé en réalité à des dépenses publiques extrêmement importantes en investissement, vous l'avez dit vous-même, 50% de son chiffre d'affaires est fait sur des opérations qui sont des opérations publiques, et si on y adjoint les opérations qui sont garanties par des crédits publics, que ce soit étatiques ou des crédits régionaux dans différents pays, on montera à plus de 75% de son chiffre d'affaires. Donc, quand on est face à ce type de société, il faut donner à ses dirigeants la possibilité de voir loin. Or, ceci est absolument incompatible avec un régime actionnarial déterminé par des marchés financiers. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a là un double problème. Le problème des réglementations européennes qui, dans les faits, je ne dis pas dans le droit, mais dans les faits, ont imposé cette privatisation, rendent impossible une nationalisation, en réalité, ou disons, mettent tellement d'obstacles et menacent tellement et à de telles reprises de poursuites les États qui choisiraient ce genre de situation que, en fait, les États vont reculer là-dessus, et qui, par ailleurs, par la politique d'austérité qu'elle impose depuis maintenant 3 ans, a coupé, a d'une certaine manière détruit le marché d'une société comme Alstom, mais aussi de quelques autres, en Europe, ce qui fait qu'elle est à la fois responsable des erreurs stratégiques parce qu'elle a, d'une certaine manière, amené à la privatisation de cette société, et dans le même temps, elle est responsable de l'effondrement de son marché. La responsabilité de l'Europe est tout à fait considérable, et de ce point de vue-là, je ne vois pas de possibilité pour le gouvernement français de réagir sainement sur cette question dans les règles européennes. Il peut décider de s'en affranchir, mais ceci est évidemment une autre affaire.
Et c'est une décision politique. Sur le papier, donc, la politique industrielle relève d'abord des États membres, mais c'est une prérogative qui est étroitement encadrée. Vous venez de le rappeler, Jacques Sapir. Les nationalisations, notamment, ne sont pas les bienvenues. Il y a pourtant des précédents français à cette question que vous avez soulevée, Maryse Dumas. Est-ce que l'État peut ou va intervenir dans la situation actuelle d'Alstom ? Souvenez-vous.
Je crois dans l'avenir de votre entreprise. Je n'y crois pas de façon béate. Et c'est pour ça que le gouvernement veut se battre pour votre entreprise. Ce n'est pas un métier qui meurt. Et c'est vrai que si on laisse partir cette main-d'œuvre et qu'on ne se donne pas la chance de transmettre aux plus jeunes ce que vous savez, alors on peut tirer un trait sur l'industrie en France. La France ne peut pas être qu'une économie de services avec des banques, des compagnies d'assurance. Très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a de l'espoir. Il y a aussi des difficultés. Et ces difficultés sont immenses. Est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre pour changer les choses ?
Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie en avril 2004, à propos du plan de sauvage d'Alstom. Et oui, déjà, plan d'abord refusé par la Commission européenne au titre de la libre concurrence. Il y a 10 ans déjà, il s'agissait de pas trop fâcher non plus le concurrent allemand Siemens. En participant financièrement au sauvetage, l'État était devenu le principal actionnaire, mais contraint par l'Union européenne de revendre sa participation dans les 4 ans pour que ce coup de pouce ne se transforme pas en nationalisation déguisée. Enfin, il y avait 2 autres conditions. Alstom devait nouer des alliances et céder 10% de ses activités, ce qui a été fait. Hein. Tout a été globalement respecté. L'État n'a même pas attendu 4 ans, mais 2 ans pour céder ses parts d'Alstom à Bouygues et réaliser au passage une plus-value, ce qui ne fut pas une affaire perdante donc pour l'État. Mais maintenant, pour répondre à la question posée par Nicolas Sarkozy, peut-être vous entrant sur cette question, Maître Trintiet, l'histoire a prouvé qu'il y avait bien, non, finalement, une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, si l'État souhaitait intervenir, il le pourrait.
Alors, je crois qu'il faut peut-être tordre le cou à quelques idées reçues ou quelques légendes. La commission Alstom, en 2004, n'a pas refusé le plan français. Elle a ouvert une procédure d'examen, elle a demandé des justifications et in fine, elle a prouvé un plan qui a été présenté et modifié effectivement sous la pression de l'autorité européenne. Mais on ne peut pas dire que ça a été refusé.
Non, je viens de dire que ça a été accepté.
Absolument. Ouais. Deuxièmement, le lien qui est établi, je le sens, autour de la table et quitte à être un peu isolé, je crois que c'est intéressant, entre entreprises vivant sous des commandes publiques et nationalisation, on peut l'étendre à Veolia, à GDF Suez, à Schneider, à Dassault, etc. Je veux dire, on va revenir effectivement au programme de gouvernement de 1981. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la solution aux problématiques que rencontre aujourd'hui le groupe Alstom. Donc, dernier point, il n'est pas vrai de dire que les règles européennes s'opposent à une nationalisation. Je dois dire qu'au contraire, les règles du traité prévoient une stricte neutralité par rapport au régime de la propriété dans les États membres. C'est écrit dans un article du traité. Donc on a le droit de nationaliser, on a le droit de privatiser, c'est une prérogative de l'État membre. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, évidemment, c'est à cette occasion de créer des distorsions de concurrence. Donc en d'autres termes, et oui, mais si je nationalise...
Donc il y a eu des cas récemment de nationalisation reconnue valide par Bruxelles et non jugée...
Il y en a eu un nombre respectable en 1981 déjà. Alors est-ce qu'il y en a eu depuis, franchement, je suis un peu sec sur la question. Il y a pu y en avoir dans d'autres États membres que la France. Mais en tous les cas, sur le principe, ça n'est pas interdit par les règles européennes.
Depuis
en revanche,
il y a dans surtout les eu des privatisations. En France, c'est
net. En 81 non, depuis 81. Ah oui, pardon. Depuis 81, il y a effectivement en France plus.
La liste est longue.
Mais tout ça quand même pour dire que l'Europe est neutre vis-à-vis du régime de propriété dans les États membres. Non. Et cela, il faut quand même l'affirmer. Non. Pardon, ça, je suis juriste. Donc,
non, mais elle n'est pas neutre parce qu'elle fait de la concurrence un principe. Or, il y a toute une série de situations économiques où la concurrence ne s'applique pas. En généralisant un principe sur des situations où justement ce principe ne s'applique pas, elle sort de sa neutralité.
J'allais y venir. L'Europe est fondée sur un principe de libre concurrence qui est inscrit effectivement dans les traités depuis 1957 et même depuis le traité CECA qui est aujourd'hui défunt en 1950. Elle dit la concurrence est le meilleur moyen d'allocation des ressources sur les marchés, ressources
ressources humaines, ressources capitalistiques. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Moi, aujourd'hui, je suis juriste. D'abord, je suis d'accord quand même, je le dis. Mais aujourd'hui, je suis juriste et je constate que c'est la règle de droit. Deuxièmement, l'Europe nous dit qu'il faut faire attention aux distorsions de concurrence qui peuvent venir à l'origine des États. Un, sur le plan strictement politique, je trouve un peu paradoxal de dire il n'y a pas de politique européenne de l'énergie, il n'y a pas de politique européenne de l'industrie, et effectivement de le déplorer, parce que je reconnais qu'il y a une politique européenne, une politique industrielle chinoise, américaine, japonaise, brésilienne, enfin dans toutes les indiennes, dans toute une série de grands pays, il y a une stratégie industrielle, il n'y a pas de stratégie industrielle européenne, et après de dire, mais c'est aux États de le faire. Mais non, si c'est à faire, c'est d'abord à faire en Europe. C'est pas effectivement par une nationalisation, par un État, contre d'ailleurs les intérêts d'un autre État, et au risque de rétablir des frontières économiques entre les États membres, c'est-à-dire de nier ce qui est la création européenne, d'apporter la solution.
Je voudrais vraiment qu'on approfondisse ce sujet de la stratégie industrielle européenne, parce qu'il est vraiment passionnant, mais j'avais une dernière question quand même, vraiment sur ce cas d'Alstom et d'une éventuelle nationalisation. Ça a été fait en 2004, ça a été à nouveau évoqué en 2012, la question d'une nationalisation temporaire autour de Florange, le site mosellan d'Arcelor, sur le modèle d'Alstom. Pourquoi aujourd'hui, en 2014, cette question-là n'est pas à l'ordre du jour?
Tout simplement parce que le gouvernement a compris la leçon, si vous voulez. D'ailleurs, le cas de Florange est assez différent.
Quelle leçon?
Il a compris la leçon que, de fait, dans les faits, non pas dans le droit, je dis bien dans les faits, la Commission de Bruxelles s'opposerait ou mettrait de tels obstacles...
Mais elle ne s'était pas opposée en 2004.
Attendez. En 2004, là encore... il y avait une situation qui était un petit peu différente. Et par ailleurs, je vous signale qu'on n'était pas dans le traité de Lisbonne. Hein. Enfin, il s'est passé quand même pas mal de choses institutionnellement entre
Lisbonne.
Mais par ailleurs, c'est vrai que ce qu'a été forcé d'accepter le gouvernement français, c'est une nationalisation temporaire. Or, je maintiens que dans toute une série de secteurs, ce n'est pas vrai dans l'ensemble de l'économie. Je ne suis pas un partisan de l'étatisation de l'ensemble de l'économie. Je pense que la concurrence a son rôle à jouer, mais à condition qu'on ne soit pas confronté à des phénomènes de rendement croissant à l'échelle, ce qui est le cas justement dans toute une série d'opérations d'infrastructures. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il y a un défaut fondamental dans les traités, et se pose immédiatement la question de savoir, doit-on accepter une règle quand on la sait fausse, ou doit-on refuser cette règle? Et moi, je suis partisan de dire, eh bien, il faut refuser cette règle.
Maryse Dubin.
Oui, moi, je pense que ce n'est pas parce que ce serait absolument interdit en Europe que le gouvernement se refuse à envisager cette possibilité, ni même parce que ce serait néfaste au plan industriel. C'est parce qu'il est idéologiquement gagné au principe du libéralisme qui accompagne la concurrence libre et non faussée et la construction européenne telle qu'elle se fait. Mais en même temps, nous sommes dans une phase d'élection européenne. C'est d'ailleurs dans ce cadre que cette émission ce soir se tient. Et ce qu'il faut dire à tous les citoyens et à tous les toutes les citoyennes, c'est qu'ils ont le pouvoir de faire changer ces choses. Il est absolument antidémocratique de dire les traités européens ont fait ça une fois pour toutes et on ne peut plus les changer et ils doivent s'imposer contre la vie des peuples, contre la vie des salariés, avec des millions de chômeurs où on continue chaque mois à compter les chômeurs sans se préoccuper de comment on va construire de l'emploi, de l'avenir et puis une industrie qui réponde aux besoins des populations en Europe, aux besoins d'emploi, mais aussi aux besoins de respect de la planète.
Donc pas de sincérité pour vous pour l'instant dans la démarche d'Arnaud Montebourg qui est comme même monté au créneau sur ce dossier-là et sur tant d'autres, qui est le chantre fait le chantre du Made in France.
Nous avons
sur ce dossier-là, vous le voyez converti au libéralisme européen.
Je ne me prononce pas sur l'un des ministres en particulier. J'ignore quel est le degré de sincérité d'Arnaud Montebourg. Ce que je regarde, c'est la politique du gouvernement, globalement. Et ce gouvernement ne fait rien qui permette de construire une alternative à la politique libérale européenne et n'a pas une véritable stratégie en matière industrielle et d'investissement. Que quelqu'un me donne un exemple concret de ce qu'a lancé ce gouvernement pour développer l'industrie en France. À part de regarder la courbe du chômage et de nous dire, sans rien faire, d'ici quelques mois, elle va s'améliorer, je ne vois pas où est la politique volontariste du gouvernement en matière industrielle. On perd des milliers d'emplois dans l'industrie tous les ans. Alors, depuis des années, il n'y a pas d'aversion.
Dites-nous justement, Maryse Dumas, comment sauver des fleurons industriels comme Alstom, comme tant d'autres, sans se mettre à dos Bruxelles, puisqu'on fait encore aujourd'hui partie de l'Union européenne, et Bruxelles qui se dit garante de la saine concurrence finalement entre les industries du secteur. Comment fait-on ?
Je ne peux pas me situer dans un contexte où on dit il ne faut pas se mettre à dos la construction européenne. Moi, je fais partie de ceux qui contestent la construction européenne telle qu'elle se fait. Je fais partie de la majorité des Français qui ont voté non au référendum sur le traité constitutionnel. Et on a vu que les gouvernements successifs, celui-ci y compris sous l'impulsion du président de la République, n'ont pas respecté la volonté de notre population et mettent en œuvre les choix décidés au niveau européen. Moi, je crois qu'il faut à la fois une politique volontariste, plutôt que de transférer des fonds publics sans savoir ce qu'ils vont donner aux entreprises, consacrons ces fonds publics à des investissements précisément sur des projets industriels qui permettent de développer l'emploi, de mieux répondre aux besoins de la population et de donner du travail à beaucoup de demandeurs d'emploi qui le demandent. Il y a des besoins industriels. Il n'est pas possible d'admettre que la France, qui est encore la cinquième puissance économique au monde, soit condamnée à devenir un pays sous-développé, parce qu'un pays qui n'a pas d'industrie est un pays en voie de sous-développement. Et c'est ça le principal problème de notre pays. C'est là-dessus qu'il faut porter le débat. Il y a des élections, c'est le moment de le porter sur cette question.
Alors, est-ce qu'on peut quand même regarder Maître Trintiet du côté de l'Europe et voir s'il y a des solutions éventuellement à mettre en œuvre pour arrêter aussi cette désindustrialisation, mettre un terme aux conséquences que ça peut avoir en termes d'emploi. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie industrielle européenne à définir aujourd'hui?
Nous le souhaitons, enfin je parle au nom de l'Institut Montaigne, on l'a écrit, on l'a mis dans des rapports. Nous souhaitons effectivement qu'il y ait une stratégie industrielle européenne. Nous souhaitons éviter que ce soit chaque État membre qui définisse ce que lui doit considérer comme étant sa stratégie industrielle ou ce qu'est la stratégie industrielle européenne qu'il va ensuite essayer d'imposer aux autres. On sait que ça ne marche pas. Nous souhaitons qu'il y ait une stratégie industrielle. Je pense effectivement que l'Europe a été trop naïve dans un certain nombre de négociations, y compris dans des négociations concernant l'accès au marché tiers. Mais que cette stratégie industrielle doit aussi s'inscrire dans une perspective économique d'ouverture des échanges mondiaux qui est quelque chose contre lequel non seulement on peut difficilement lutter, mais contre lequel, à mon avis, il ne peut pas lutter. Je vais peut-être juste faire une petite incidente pour dire que je trouve assez ahurissant que depuis le début, de cette émission, on soit en train de dire l'Europe, qui n'a pas dit un mot sur ces dossiers aujourd'hui. Je n'ai pas entendu le moindre commissaire européen, la moindre position d'un directeur général qu'il soit, qui aurait dit j'ai des objections. Aucune décision n'a été prise. Mais ils ont
c'est pour ça que l'Europe n'a pas réagi.
Mais on est en train d'en faire un bouc émissaire en disant mais à cause de l'Europe, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Je pense que j'ai expliqué tout à l'heure que c'est faux. L'Europe, effectivement, doit veiller à ce que les aides d'État ne faussent pas les échanges entre États membres. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'aides d'État. En tous les cas, c'est ce que nous avons écrit, nous, dans les rapports de l'Institut Montaigne. On a dit que la politique européenne est probablement un peu naïve de ce point de vue-là, puisque c'est la seule à limiter les possibilités d'intervention publique. Ce que nous disons, en revanche, c'est que ces possibilités doivent être coordonnées au niveau européen. Arrêtons de vouloir faire la révolution dans un seul pays. On n'y arrivera pas.
Mais juste pour comprendre à quoi ressemble aujourd'hui...
Oui, Staline y était arrivé, effectivement.
Il n'y a pas que Staline. Non, et d'ailleurs, n'est pas lui qui était arrivé.
Bruxelles a quand même s'il ne s'est pas exprimé sur l'affaire ou sur le dossier Alstom, un commissaire européen aux industries, Antonio Tajani. On en déduira qu'il existe bel et bien aujourd'hui une politique industrielle européenne, définie comme tel. D'ailleurs, sur le site du Parlement, la politique industrielle de l'Union vise à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne afin qu'elle puisse demeurer le moteur de la croissance durable et de l'emploi. En somme, aujourd'hui, l'Union européenne entend agir horizontalement en offrant un cadre, des conditions propices, comme elle le dit, à la compétitivité des entreprises européennes à l'ère de la mondialisation. Ceci dit, sur quoi repose cette politique? Sur quelle philosophie? Sur quel fondement? Sur quelle valeur? Sur quel pilier repose l'actuelle politique industrielle européenne? Jacques Sapir.
Fondamentalement, elle repose sur trois piliers. Un, la concurrence. Deuxièmement, la réduction des salaires des travailleurs. Ce n'est pas dit en tant que tel, mais c'est, si vous voulez, sous-jacent et d'ailleurs assez explicitement dans toute une série de décisions. Troisièmement, c'est vrai, une aide à la recherche et au développement, mais cette aide est, il faut bien le dire ici aussi, complètement dérisoire par rapport aux budgets recherche qui sont ceux de la Chine, du Japon, de la Corée, bref, de pays qui ont une vraie politique industrielle de ce point de vue-là. Je pense que le fond du problème...
Juste pour dire, c'est ce que dit un de vos confrères, hein, l'économiste Gilles Leblanc, qui dit effectivement aujourd'hui la politique de la concurrence est le principal outil d'intervention structurelle de l'Union européenne, au détriment, et il le déplore, d'une politique industrielle active, frileuse en matière de recherche et d'innovation, peu décidée à encourager l'émergence de champions continentaux. Voilà, il regrette l'absence finalement d'un cadre politique clair qui offrirait aux entreprises de la cohérence.
Absolument. Et je dois vous dire que le fond du problème, c'est que la seule chose sur laquelle 28 pays peuvent tomber d'accord, ce sont des règles de concurrence. Car il n'y a pas d'intérêt commun à ces 28 pays. Il n'y a pas d'intérêt commun à l'Europe. Et il faut le reconnaître d'une certaine manière. La Cour constitutionnelle allemande l'a reconnu il y a quelques années, il n'y a pas de peuple européen. En réalité, il peut y avoir des intérêts communs entre des groupes d'États, entre France, Allemagne, Italie, sur un certain nombre de projets. Il peut y avoir aussi des intérêts communs entre la Slovaquie, la Tchéquie, peut-être la Hongrie, peut-être la Pologne, sur d'autres terrains. Mais il n'y a pas de choses qui unissent les 28. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas reconnu, on sera condamné à aller dans une impasse. Car si l'on veut trouver un cadre qui convienne aux 28 pays, on sera évidemment dans une logique du plus petit dénominateur commun. Et il faut comprendre que fondamentalement, cette question de la concurrence, ce n'est pas simplement une question théorique. C'est que le principe de concurrence vise à homogénéiser des activités industrielles et des activités productives qui sont très différentes. Prenons le cas de Florange. Dans le cas de Florange, je n'étais pas pour une nationalisation générale de cet outil de production. Pourquoi ? Parce que l'acier est aujourd'hui massivement consommé par des acteurs privés. Et donc, je pensais, et je continue de penser, que peut-être qu'une nationalisation temporaire aurait permis au site de Florange de survivre. Peut-être que ce qu'il fallait faire en réalité, c'était de s'allier avec les Belges et avec les Russes qui étaient sur cette affaire-là. Et je pense qu'on a perdu une grande occasion avec l'offre qu'avait fait en sous-main M. Mordachov et qui a été refusée par le Premier ministre, il faut le dire là. Mais quand on est dans un secteur où on est en présence systématiquement de rendements croissants et où on est en présence d'échecs de marché systématiques, eh bien là, il faut reconnaître que seule une nationalisation générale et non pas temporaire peut permettre de sauver l'entreprise.
Jean-Paul Trintet, vous envoyez des valeurs communes, pardon,
oui.
Alors, ou Maryse Dumas, des valeurs communes, des réalités partagées.
Je veux dire juste, oui, tout à fait, mais je vais être bref, parce que moi je suis un tout petit peu effaré de voir effectivement la façon dont tourne le débat. L'Europe est effectivement basée aujourd'hui sur la politique de concurrence, essentiellement, et nous le regrettons. Contrairement à ce que vous avez l'air de penser.
Non, vous êtes plutôt d'accord. Non,
on est plutôt d'accord, sauf que ce que nous disons, c'est la faute à qui ? La faute à qui si la Commission européenne ne s'occupe aujourd'hui qu'essentiellement des règles de concurrence ? Tout simplement parce qu'on lui a refusé toute autre compétence. On a refusé toute délégation de compétences en matière industrielle, en matière énergétique. Regardez tous
les
États.
C'est ce que dit aussi Jacques Sapir. Oui, finalement, on n'a jamais réussi que Sauf les États que n'ont pas trouvé des dénominateurs
communs. Ce qu'il dit, c'est
communs.
Que c'est impossible puisqu'on oui, va être impossible. Sur le plus petit dénominateur commun. C'est un postulat qui
que je lui laisse.
Mais non, c'est pas une constatation.
On n'a pas essayé.
Pourquoi on n'a pas essayé ?
On n'a pas essayé parce que les égoïsmes nationaux aujourd'hui l'emportent sur la volonté de construire un véritable marché européen.
Et qui vous dit qu'ils ne continueront pas à
l'emporter ? Est-ce qu'au-delà des égoïsmes nationaux, est-ce que les entreprises françaises, les multinationales européennes désirent, elles, un plus de politique industrielle européenne ? Est-ce qu'elles désirent une nouvelle stratégie ? Ou est-ce que ça ne les arrangerait pas, finalement ?
Moi, je crois que le corollaire de la concurrence libre et non faussée, parce que moi, je pense qu'on peut construire l'Europe sans la bâtir sur la concurrence libre et non faussée. Et j'en ai un petit peu assez que chaque fois qu'on dit on peut construire une autre Europe, on nous dise c'est celle-là, ou alors c'est que vous êtes anti-européenne, nationaliste, xénophobe, etc., ou Staline, enfin, bon, toutes les références qu'il y a eu tout à l'heure. Donc, l'Europe souffre, est en train de mourir peut-être, de son absence de démocratie. Et je pense que vouloir la revitaliser, c'est permettre au peuple de s'emparer de la question européenne et de dire comment ils veulent la construire. Et pour ça, il y en a assez des discours sur on ne peut pas discuter de l'orientation européenne sans être taxé donc de nationalisme.
Discutons-en tranquillement. Du coup, alors quelle stratégie industrielle vous paraîtrait protectrice alors, aussi pour les salariés? Est-ce qu'on peut l'imaginer?
Le problème central, celui sur lequel on est à peu près sur tous les sujets, c'est la question de la concurrence libre et non faussée qui s'applique à tous les secteurs. On peut concevoir, je rejoins ce qui a été dit avant moi, on peut concevoir la concurrence dans un certain nombre de secteurs, mais il doit y avoir aussi un certain nombre de droits fondamentaux dont la réponse échappe au secteur de la concurrence, à ce principe de concurrence libre et non faussée. Je pense en particulier à tout ce qui relève des politiques sociales, des politiques d'éducation, des politiques de santé, pour une part la communication, de façon à pouvoir permettre des réponses qui échappent aux règles du profit. Parce que le corollaire de la concurrence libre et non faussée pour le marché, c'est la concurrence aussi sur les coûts salariaux. C'est le dumping social en Europe. Bravo l'Europe sociale, avec des millions de chômeurs qu'on n'arrive pas à limiter. Avec le développement, on nous parle tous les jours de la compétitivité allemande. On oublie de nous dire que des millions de salariés en Allemagne sont contraints à des mini-jobs à quelques euros de l'heure.
Un SMIC vient d'être instauré.
Non, ce n'est pas un SMIC. Non.
Ah bon ?
Ah non ? Non, parce qu'on oublie que le SMIC, en France, il est indexé sur la croissance et qu'il y a une solidarité.
Alors un revenu minimum à 8,50
euros
a été voté
par la
grande
coalition. Ça n'est absolument pas la même chose. Voilà.
Est-ce que protéger le marché européen, pour vous, Maryse Dumas, une forme de protectionnisme à 28, serait une bonne piste intéressante à suivre?
Voilà, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire en Europe, oui. Ça aurait pu, ça n'a pas été fait, mais ça aurait pu être une belle ambition que de permettre à l'Europe de constituer des groupes qui aient une force, une cohérence et qui soient capables effectivement à la fois de répondre aux besoins des peuples européens, parce que quand même quand on regarde les niveaux de développement en Europe, il y a de quoi répondre aux besoins des peuples européens, et en même temps de pouvoir répondre aux enjeux multinationaux. Mais ce choix n'a pas été fait.
Pourquoi ? Parce qu'il implique des nouveaux transferts de souveraineté ?
Non, pas parce qu'il implique des transferts de nouvelles souverainetés, mais parce qu'il porte atteinte au principe de la concurrence libre et non faussée. Et que le principe de la concurrence libre et non faussée, c'est que la construction européenne vise à ce que des groupes qui sont à dominante allemande fassent concurrence à des groupes à dominante française, plutôt que de coaliser leurs efforts, plutôt de se concentrer. On nous cite tout le temps Airbus, qui est une grande réussite. Quel autre projet européen peut-on mettre à côté d'Airbus ?
Ce n'est pas un projet européen. Airbus n'a jamais été un projet européen. C'est un projet du gouvernement français et du gouvernement allemand auquel le gouvernement italien a décidé de se joindre, et par la suite les Britanniques, British Aerospace, ont décidé, contre l'avis de leur gouvernement, de venir rejoindre Airbus. Il est tout à fait faux de qualifier Airbus de projet européen. Même chose pour Arianespace. Arianespace a été créé par un coup de force de la France et qui a, d'une certaine manière, convaincu l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qu'il valait mieux travailler dans ce consortium sous direction française et non pas dans la fameuse agence spatiale européenne de l'époque qui avait produit une fusée dite européenne Europa dont pas un tir fut un succès. Tous ces tirs se sont soldés par des échecs.
La politique industrielle européenne, avec vous, Maryse Dumas, membre du Conseil économique, social et environnemental, conseillère confédérale de la CGT, avec vous, Jean-Paul Trintiet, avocat associé au cabinet White & Case et membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, et également avec vous, Jacques Sapir, qu'on vient d'écouter, économiste, directeur d'études à l'EHESS. Il nous reste quelques minutes. Jean-Paul Trintiet, je voudrais quand même juste revenir sur la position des entreprises. C'est vrai qu'il y a au fond assez peu de géants européens. Pourquoi ?
Mais il y a beaucoup de géants européens, il y a beaucoup de grandes entreprises européennes et même beaucoup de grandes entreprises françaises qui sont des leaders mondiaux. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Mais alors, pardon, quelle est la question ?
Vraiment de géants européens, c'est-à-dire de groupes, de consortiums, de conglomérats.
Lorsque Roussel-Uclaf a pris le contrôle de Hoechst pour créer Aventis, qui s'appelle effectivement, qui a encore changé de nom, pardon, après le, Sanofi. Oui. Mais lorsque Roussel Uclaf a conquis ou s'est allié avec Hoechst, personne n'a considéré que c'était contre les règles de concurrence, ni que c'était une mainmise de l'entreprise France contre l'entreprise Allemagne. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas entendu à l'époque.
Ni que ça crée des positions dominantes alors, au sein du marché européen.
Après, que ce soit pour... et il y a des exemples, par exemple, où l'Europe s'est plutôt opposée à des fusions américaines parce qu'elles étaient susceptibles d'avoir un impact sur le marché européen. Il y a eu des cas où l'Europe s'est manifestement trompée. Et c'est vrai que... Et là, je vais rejoindre mes deux interlocuteurs. C'est-à-dire que faire du tout concurrence n'est pas une solution pour l'Europe. Je veux dire, c'est tout à fait clair. En revanche, prétendre qu'il faut ignorer complètement les règles de concurrence et ne plus s'occuper des risques de position dominante qui peuvent aboutir à des abus de marché, ne plus se préoccuper des risques d'entente, ne plus se préoccuper des risques de distorsion qui peuvent résulter d'aides massives des États données à telle ou telle entreprise contre les intérêts du voisin, je pense que ça, ce n'est pas la bonne solution.
On a évoqué cette volonté des États, mais sur cette question des entreprises et notamment des multinationales, que souhaite-t-elle ? Est-ce qu'elle souhaite le renforcement donc, d'une stratégie industrielle européenne ?
Tous ces grands
ou est-ce qu'elles
n'y
ont pas forcément intérêt parce qu'ils font leur marché ailleurs, en dehors des frontières
européennes ? Tous ces grands groupes européens ont effectivement plutôt tiré profit de la construction du marché unique européen qui a été effectivement fondé grâce à l'application de règles de concurrence et par le fait qu'on a voulu intégrer les économies et qu'on a voulu ne pas permettre ni aux entreprises ni aux États de restaurer de nouveau les frontières douanières qui ont été abolies en 1958. Pardon de refaire ça. C'était ça l'idée. Elles en ont, pour toutes celles qu'on a citées jusqu'ici, tiré profit. Ça a été un peu leur base arrière. Après, elles se sont lancées dans le grand monde. C'est peut-être moins important pour elles, encore que c'est toujours important d'avoir un camp de base solide. Et donc, je pense qu'elles restent très attachées à la construction du marché européen. Est-ce qu'elles sont toutes demanderesses d'une stratégie industrielle ? Je dirais, pour ce qui concerne la recherche et le développement, certainement. Pour ce qui concerne la continuation de l'intégration des économies, certainement. Pour le reste, est-ce qu'il faut que les États décident dans un mécano industriel qui doit s'allier avec qui ?
Probablement pas. Un système de protectionnisme européen, elles y seraient
pas
spécialement favorables.
Et pas pour un système de protectionnisme, mais comme je le disais tout à l'heure, pour une égalité d'accès au marché, c'est-à-dire pour éventuellement des mesures de rétorsion contre les pays, dont certains que j'ai cités tout à l'heure, qui eux refusent d'ouvrir leur marché. Je crois que l'ouverture, elle doit être aussi réciproque dans ce domaine.
Il y a deux aspects qu'il faut quand même prendre en compte. Le premier, c'est la financiarisation. C'est-à-dire que de plus en plus de ces groupes, y compris industriels, sont condamnés à concevoir toute leur production, leur restructuration pour satisfaire à des exigences de rémunération des dividendes, de court terme, etc. Et deuxièmement, autant on a pu considérer que pendant une période de développement du capitalisme, il pouvait y avoir une relative adéquation, hein, je mets bien le relatif adéquation, entre les intérêts des peuples et ceux des entreprises industrielles dominante. Autant aujourd'hui, ces grands groupes se fichent éperdument de l'intérêt des salariés qui travaillent pour ces groupes et plus globalement des populations. Donc on revient à la question démocratique.
Oui, et vous revenez aussi un peu à ce que pourrait être le bilan français de cette politique de la concurrence. Il est quand même plus que mitigé. D'un côté, effectivement, un tissu industriel qui n'a pas cessé de se déliter, plus de 2 millions d'emplois perdus. De l'autre, par contre, des entreprises, notamment du CAC 40, qui ont été restructurées à coup de plans sociaux probablement, pour beaucoup, qui ont fusionné, qui ont assigné leurs comptes, mais qui se portent bien aujourd'hui dans le sens où elles affichent effectivement des profits plutôt importants. Donc ça a profité aux uns, moins profité à d'autres. Aujourd'hui, il y a quand même effectivement un tissu industriel auquel il faut penser et voir comment l'Europe peut aider à reconstruire, en tout cas concernant une grande frange des pays du Sud, à aider les industries à se porter mieux. Jacques Sapir.
Fondamentalement, si vous voulez, le système d'abord du marché unique, puis le système de cette espèce de libre-échangisme débridé auquel nous sommes confrontés dans le monde, aboutit à dissocier la santé de l'entreprise de la santé de ses travailleurs. Ce qui était important dans les années 50 et dans les années 60, c'était qu'une entreprise savait, et les grands groupes français, comme les grands groupes allemands d'ailleurs, l'avaient parfaitement compris, que d'une certaine manière, c'était le revenu de leurs salariés qui fournirait leur propre marché. Et on voit qu'aujourd'hui, grosso modo, le libre-échangisme provoque dans tous les pays, y compris aux États-Unis, un effondrement du niveau réel des salaires ou du niveau relatif des salaires. Donc ça, c'est un premier point.
Donc Jacques Sapir, il nous reste 10 secondes. On va pouvoir peut-être imaginer et voir, en fonction du résultat des élections à la fin du mois, si une stratégie industrielle intégrée en Europe est possible et quelle solidarité intra-européenne est pensable.
Il faudra à ce moment-là ne pas voter pour les partis qui défendent justement l'Europe telle qu'elle existe actuellement.
C'est la fin de ce club des observateurs européens. Merci beaucoup à tous les trois. Merci mille fois du grain à moudre. Une émission préparée par Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Mathilde Barbier et Mina Affesi. Réalisée ce soir par Michel-Ange Vinti, assistée de Théo Gomard à la technique.